Bonsoir à vous, merci pour votre présence pour cette lecture de La Route des Flandres. Cette lecture s'inscrit dans le cadre de l'exposition Claude Simon, l'inépuisable chaos du monde, que vous pouvez actuellement voir jusqu'au 6 janvier 2014 à la Bibliothèque publique d'information située sur la mezzanine du Centre Pompidou. Cette exposition est ouverte depuis maintenant quelques jours, depuis quelques semaines même, et elle a été organisée en collaboration avec l'Institut universitaire de France, avec la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, avec Alain Fléchère également, qui en a assuré la direction artistique, et Dominique Viard, ce qui va me permettre de le présenter, la direction scientifique. Voilà, donc je laisse la parole à Dominique Viard, qui est professeur de littérature contemporaine à l'Université de Paris-Ouest Nanterre. Merci.
Bonsoir à tous. Merci Emmanuel pour ces mots de présentation. Donc, je suis très heureux d'accueillir ce soir Denis Podalydès pour cette lecture de La Route des Flandres de Claude Simon, qui est l'une des scansions de cette exposition. Nous aurons bientôt, au mois de novembre aussi, des rencontres, discussions, débats autour de l'œuvre de Claude Simon, les 15 et 16 novembre. Et vous êtes bien sûr tout à fait conviés à venir y assister également. Et donc cette lecture, ce soir, nous l'avons voulu sur La Route des Flandres pour au moins deux raisons. La principale de ces raisons, c'est que La Route des Flandres est certainement une pièce maîtresse de toute l'œuvre de Claude Simon, une pièce centrale autour de laquelle résonnent comme des éléments de préparation et de continuation, les autres textes de l'écrivain. C'est aussi La Route des Flandres que nous avons choisi comme une pièce majeure de l'exposition, puisque le manuscrit a été filmé par Alain Fléchère. Il a été ensuite l'objet d'un travail d'infographie qui vous permet de voir comment Simon écrivait, comment peu à peu se constituait son texte et comment il élaborait ses romans. Donc ça, c'est, je crois, une occasion à la fois d'entendre le texte et de le voir de la main de Simon lui-même dans ce travail de vidéo qu'Alain Fléchère a eu la très grande générosité de constituer pour l'exposition. Et puis, il y a aussi une petite anecdote qui fait que je suis très heureux ce soir d'écouter Denis lire La Route des Flandres. C'est que quand nous avons fait connaissance, Denis et moi, il y a une vingtaine d'années, il n'était pas encore le grand écrivain et le grand acteur que vous connaissez. Moi, je n'étais pas non plus grand-chose du tout, d'ailleurs. Et je venais d'être recruté à l'Université de Lille et je faisais un cours sur Claude Simon et Faulkner. Et nous sommes rencontrés dans une lecture avec Denis qui me disait son grand désir de lire La Route des Flandres. J'avais essayé d'organiser ça à l'université, je n'y avais pas réussi du tout. Mais voyez, la vie a parfois des ironies généreuses, puisque c'est ce soir enfin qu'on va pouvoir l'entendre. Et je vais lui laisser la parole avant de dire quand même un petit mot de ce roman pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas eu encore la grande chance de le lire. C'est un texte assez étrange, il faut se laisser porter à la lecture de ce texte, peut-être pas chercher à comprendre tout de suite de quoi il retourne. C'est dans le mouvement des sensations, des émotions, des réminiscences que peu à peu un texte se constitue là. Et vous allez l'entendre, il y a différents fils narratifs qui s'entremêlent. On ne sait pas très bien à quel moment le narrateur qui parle, parle. On ne sait pas très bien non plus à qui il parle. Parfois, il parle à l'un de ses compagnons dans la déroute de la Seconde Guerre mondiale, au moment de l'invasion allemande, alors que lui-même était un brigadier dans un régiment de cavalerie affronté au Panzer qui était en face. Ça explique pourquoi on a perdu la guerre. Il se rappelle de cela alors qu'il est dans un camp de prisonniers. Il en parle avec l'un de ses compagnons de déroute. Il en parle dans le wagon qui le conduit dans ce camp de prisonniers militaires. Il en parle encore beaucoup plus tard avec une femme qu'il a retrouvée dans une chambre d'hôtel. Et il se parle peut-être aussi à lui-même. Et finalement, ces différents fils narratifs, ces différents niveaux se mêlent. Et c'est dans leur entremêlement, justement, que l'émotion apparaît, comme vous allez pouvoir l'entendre tout de suite. Denis, à toi.
Un moment, j'ai pu le voir ainsi, le bras levé, brandissant cette arme inutile et dérisoire dans un geste héréditaire de statue équestre que lui avaient probablement transmis des générations de sabreurs, silhouette obscure dans le contre-jour qui le décolorait, comme si son cheval et lui avaient été coulés tout ensemble dans une seule et même matière, un métal gris, le soleil miroitant un instant sur la lame nue, puis le tout, homme, cheval et sabre, s'écroulant d'une pièce sur le côté comme un cavalier de plomb, commençant à fondre par les pieds et s'inclinant lentement d'abord, puis de plus en plus vite sur le flanc, disparaissant. Le sabre toujours tenu à bout de bras derrière la carcasse de ce camion brûlé, effondré là, indécent comme un animal, une chienne pleine traînant son ventre par terre, les pneus crevés se consumant lentement, exhalant cette puanteur de caoutchouc cramé, la nauséeuse puanteur de la guerre, suspendue dans l'éclatant après-midi de printemps, flottant ou plutôt stagnant, visqueuse et transparente, mais aurait-on dit visible comme une eau croupie dans laquelle auraient baigné les maisons de briques rouges, les vergers, les haies. Un instant, l'éblouissant reflet de soleil accroché ou plutôt condensé, comme s'il avait capté, attiré à lui pour une fraction de seconde toute la lumière et la gloire sur l'acier virginal. Seulement, vierge, il y avait belle lurette qu'elle ne l'était plus, mais je suppose que ce n'était pas cela qu'il lui demandait, espérait d'elle, le jour où il avait décidé de l'épouser, sachant sans doute parfaitement dès ce moment ce qu'il attendait, ayant accepté par avance, ayant assumé, ayant par avance consommé, si l'on peut dire, cette passion, avec cette différence que le lieu, le centre, l'autel n'en était pas une colline chauve, mais ce suave et tendre et vertigineux et broussailleux et secret repli de la chair. Ouais, crucifié, agonisant sur l'autel, la bouche, l'antre de... Mais après tout, n'y avait-il pas aussi une putain là-bas, à croire que les putains sont indispensables dans ces sortes de choses, femmes en pleurs se tordant les bras et putains repentis, à supposer qu'il lui ait jamais demandé de se repentir, ou du moins attendu, espéré qu'elle le fît, qu'elle devint autre chose que ce qu'elle avait la réputation d'être, et donc attendu de ce mariage autre chose que ce qui devait logiquement s'en suivre, prévoyant même peut-être, ou du moins ayant peut-être envisagé jusqu'à cette ultime conséquence, ou plutôt conclusion, ce suicide que la guerre lui donnait l'occasion de perpétrer d'une façon élégante, c'est-à-dire non pas mélodramatique, spectaculaire et sale comme les bonnes qui se jettent sous le métro ou les banquiers qui salissent tout leur bureau, mais maquillée en accident. Si toutefois on peut considérer comme un accident d'être tué à la guerre, profitant en quelque sorte avec discrétion et opportunité de l'occasion offerte pour en finir avec ce qui n'aurait jamais dû commencer 4 ans auparavant. J'ai compris cela. J'ai compris que tout ce qu'il cherchait, espérait depuis un moment, c'était de se faire descendre. Et pas seulement quand je l'ai vu rester là, planté sur son cheval, arrêté, bien exposé au beau milieu de la route, sans même se donner la peine ou faire semblant de se donner la peine de le pousser jusque sous un pommier. Je suppose qu'il n'aurait pas pris le trot pour tout l'or du monde, qu'il n'aurait pas donné un coup d'éperon, pas donné sa place pour un boulet de canon. C'est le cas de le dire, il y a comme ça des expressions qui tombent à pic. Au pas, donc. Cela devait faire aussi partie de ce qu'il avait commencé 4 ans plus tôt et avait décidé, était en train de finir, ou plutôt de chercher à terminer, avançant tranquillement, impassible. De même que, d'après ce que disait Iglesia, il avait toujours fait semblant de ne s'apercevoir de rien, n'avait jamais laissé transparaître le moindre sentiment, ni jalousie, ni colère. Impassible sur cette route qui était quelque chose comme un coupe-gorge, c'est-à-dire pas la guerre, mais le meurtre. Un endroit où l'on vous assassinait sans qu'on ait le temps de faire ouf. Les types tranquillement installés comme au tir forain derrière une haie ou un buisson et prenant tout leur temps pour vous ajuster. Le vrai casse-pipe, en somme. Et à un moment, je me suis demandé s'il n'espérait pas qu'Iglesia y laisserait aussi sa peau. Si, tout en finissant avec lui-même, il n'assouvissait pas en même temps une vengeance longtemps désirée. Mais tout bien pesé, je ne le crois pas. Je pense qu'à ce moment-là, tout lui était devenu indifférent. Si tant est qu'il en ait jamais voulu à Iglesia, puisqu'en définitive, il l'avait gardé à son service, et que maintenant, il se souciait autant, ou plutôt aussi peu, de lui que de moi, ou de cet idiot de sous-lieutenant, ne se sentant sans doute plus tenu à aucun devoir, non pas en ce qui nous concernait personnellement, mais en ce qui concernait son rôle, sa fonction d'officier, pensant probablement que ce qu'il pouvait faire ou ne pas faire sur ce plan n'avait, au stade où nous en étions arrivés, plus aucune espèce d'importance. Délivré, donc, libéré, relevé, pour ainsi dire, de ses obligations militaires, à partir du moment où l'effectif de son escadron avait été réduit à nous quatre, son escadron lui-même étant à peu près tout ce qui avait fini par rester du régiment tout entier, avec peut-être quelques autres cavaliers démontés, perdus par-ci par-là dans la nature. Ce qui ne l'empêchait pas de se tenir toujours droit et raide sur sa selle. Aussi droit et aussi raide que s'il avait été en train de défiler à la revue du 14 juillet et non pas en pleine retraite, ou plutôt débâcle, ou plutôt désastre, au milieu de cette espèce de décomposition de tout, comme si non pas une armée, mais le monde lui-même tout entier, et non pas seulement dans sa réalité physique, mais encore dans la représentation que peut s'en faire l'esprit. Mais peut-être était-ce aussi le manque de sommeil, le fait que depuis 10 jours nous n'avions pratiquement pas dormi, sinon à cheval, que le monde lui-même était en train de se dépiauter, se désagréger, s'en aller en morceaux, en eau, en rien. Et 2 ou 3 fois, quelqu'un lui cria de ne pas continuer. Combien, je ne sais, ni qui ils étaient, j'imagine, des blessés, ou cachés dans des maisons, ou dans le fossé, ou peut-être de ces civils qui s'obstinaient de façon incompréhensible à errer, traînant une valise crevée, ou poussant devant eux de ces voiturettes d'enfants chargées de vagues bagages, et même pas des bagages, des choses, et probablement inutiles, simplement sans doute pour ne pas errer les mains vides, avoir l'impression, l'illusion d'emporter avec soi, de posséder n'importe quoi, pourvu que s'y attachât à l'oreiller éventré, au parapluie ou à la photographie en couleur des grands-parents, la notion arbitraire de prix, de trésor. Comme si ce qui comptait, c'était de marcher, que ce fût dans une direction ou une autre. Mais je ne les vis pas véritablement. Tout ce que je pouvais voir, était-ce encore capable de reconnaître, comme une sorte de point de mire, de repère, c'était ce dos osseux, maigre, raide et très droit, posé sur la selle, et la tunique de serge légèrement plus brillante sur la saillie symétrique des omoplates. Et il y avait longtemps que j'avais cessé de m'intéresser, de pouvoir m'intéresser, à ce qui pouvait se passer sur le bord de la route. Des voix, donc, irréelles et geignardes, criant quelque chose, mise en garde, avertissement, et qui me parvenaient à travers l'éblouissante et opaque lumière de cette journée de printemps. Comme si la lumière elle-même était sale, comme si l'air invisible contenait en suspension, comme une eau souillée, troublée, cette sorte de crasse poussiéreuse et puante de la guerre. Et lui, chaque fois je pouvais voir sa tête bouger et sous le casque apparaître en profil perdu le bord de son visage, la découpe sèche, dure du front, du sourcil, et au-dessous l'encoche de l'orbite, puis la ligne ferme, sèche, inaltérable, descendant tout droit de la pommette au menton. Et lui les regardant, son œil inexpressif, incurieux, se posant un instant, mais apparemment sans voir, sur celui, ou peut-être même pas, seulement l'endroit, le point d'où venait la voix, qu'il avait interpellé, et même pas réprobateur, sévère ou indigné, même pas un froncement de sourcils, simplement cette absence d'expression, d'intérêt, tout au plus peut-être un étonnement, un peu interdit, impatient, comme si dans un salon, quelqu'un l'avait brusquement abordé, sans lui avoir été présenté ou interrompu au milieu d'une phrase par une de ses remarques hors de propos, comme par exemple lui signaler la cendre de son cigare sur le point de se détacher ou son café en train de refroidir. Et cherchant peut-être, faisant effort, montre de bonne volonté, de patience, de courtoisie, pour essayer de comprendre les raisons ou l'intérêt de la remarque, ou si celle-ci pouvait être rattachée d'une manière quelconque à ce qu'il était en train de raconter, puis renonçant à comprendre, prenant son parti sans même un haussement d'épaule, pensant sans doute qu'il est inévitable de rencontrer toujours, partout et en toutes circonstances, dans les salons ou à la guerre, des gens stupides et sans éducation, et cela fait, c'est-à-dire remémorer, oubliant l'interrupteur, l'effaçant, cessant de le voir avant même d'avoir détourné les yeux, cessant alors pour de bon de regarder cet endroit où il n'y avait rien, redressant la tête et reprenant avec ce petit sous-lieutenant sa paisible conversation, du genre de celle que peuvent tenir 2 cavaliers, chevauchant de compagnie au manège ou dans la carrière, et où il devait sans doute être question de chevaux, de camarades de promotion, de chasse ou de course, et il me semblait y être, voir cela, des ombrages verts avec des femmes en robe de couleur imprimée, debout ou assis sur des fauteuils de jardin en fer, et des hommes en culottes claires et bottes en train de leur parler, légèrement penchés sur elles, tapotant leurs bottes à petits coups de leurs cravaches de joncs, et les robes des chevaux et celles des femmes, et les cuirs fauves des bottes faisant des taches vives, acajou, mauve, rose, jaune, sur l'épaisseur verte des frondaisons. Et les femmes de cette espèce particulière, non pas à laquelle appartiennent, mais que constituent, à l'exclusion de tout autre, les filles de colonels ou de noms à particules, un peu fades, un peu insignifiantes et grêles, conservant tard, même mariées, même après le deuxième ou troisième enfant, cet air de jeune fille, avec leurs longs bras délicats et nus, leurs courts gants blancs de pensionnaire, leurs robes de pensionnaire, jusqu'à ce qu'elle se mue brusquement, vers le milieu de la trentaine, en quelque chose d'un peu homasse, un peu chevalin, non, pas des juments, des chevaux, fumant et parlant chasse ou concours hippique, comme des hommes, et le bourdonnement léger des voix, suspendues sous les lourds feuillages des marronniers, les voix, féminines ou d'hommes, capables de rester bien séantes, égales et parfaitement futiles, tout en articulant les propos les plus raides, ou même de corps de garde, discutant de saillies, bêtes et humains, d'argent ou de première communion, avec la même inconséquente, aimable et cavalière aisance. Les voix, donc, se mêlant à l'incessant et confus piétinement des bottes et des hauts talons sur le gravier, stagnant dans l'air, le chatoyant et impalpable poudroiement de poussière dorée suspendue dans le paisible et vert après-midi aux effluves de fleurs, de crottins et de parfums. Et lui...
« Ouais !»
fit Blum. « Maintenant, nous étions couchés dans le noir, c'est-à-dire imbriqués, entassés, au point de ne pas pouvoir bouger un bras ou une jambe sans rencontrer, ou plutôt sans demander la permission à un autre bras ou une autre jambe, étouffant, la sueur ruisselant sur nous, nos poumons cherchant l'air comme des poissons sur le sec. Le wagon, arrêté une fois de plus dans la nuit, on n'entendait rien d'autre que le bruit des respirations, les poumons s'emplissant désespérément de cette épaisse moiteur, cette puanteur s'exhalant des corps emmêlés, comme si nous étions déjà plus morts que des morts, puisque nous étions capables de nous en rendre compte, comme si l'obscurité, les ténèbres, et je pouvais les sentir, les deviner, grouillant, rampant lentement les uns sur les autres comme des reptiles dans la suffocante odeur de déjection et de sueur, cherchant à me rappeler depuis combien de temps nous étions dans ce train, un jour et une nuit, ou une nuit, un jour et une nuit, mais cela n'avait aucun sens, le temps n'existe pas. « Quelle heure est-il » dis-je. « Est-ce que tu peux réussir à avoir... » ?»« Bon sang, » dit-il, « qu'est-ce que ça peut foutre ? » ?»« Qu'est-ce que ça changera quand il fera jour ? » ?»« Tu tiens à voir nos sales gueules de lâches, de vaincus ? » ?»« Tu tiens à voir ma sale gueule de juif ? » ?»« Il... » « Oh, » dis-je, « ça va, ça va, ça va. » Blum répétant, « Ouais. » Et alors il a dégusté à bout portant cette rafale de mitraillette. Je vais aller beaucoup plus loin dans le livre. Tout à coup, tout fut complètement noir. Peut-être étais-je mort. Peut-être cette sentinelle avait-elle tiré la première et plus vite. Peut-être étais-je toujours couché là-bas, dans l'herbe odorante du fossé, dans ce sillon de la terre, respirant, humant sa noire et âcre senteur d'humus. Lapant son chose rose, mais non pas rose, rien que le noir dans les ténèbres touffues, me léchant le visage. Mais en tout cas mes mains, ma langue, pouvant la toucher, la connaître, m'assurer, mes mains aveugles, rassurées, la touchant partout, courant sur elle, son dos, son ventre, avec un bruit de soie, rencontrant cette touffe broussailleuse, poussant comme étrangère, parasite sur sa nudité lisse. Je n'en finissais pas de la parcourir, rampant sous elle, explorant dans la nuit, découvrant son corps immense et ténébreux, comme sous une chèvre nourricière, la chèvre pied. Ils disaient qu'ils faisaient ça aussi bien avec leurs chèvres qu'avec leurs femmes ou leurs sœurs, suçant le parfum de ses mamelles de bronze, atteignant enfin cette touffeur, lapant, m'enivrant. Blotti au creux soyeux de ses cuisses, je pouvais voir ses fesses au-dessus de moi, luisant faiblement, phosphorescentes, bleuâtre dans la nuit, tandis que je buvais sans fin, sentant cette tige sortie de moi, cet arbre poussant, ramifiant ses racines à l'intérieur de mon ventre, mes reins, m'enserrant, lierre griffu, se glissant le long de mon dos, enveloppant ma nuque comme une main. Il me semblait rapetisser à mesure qu'il grandissait, se nourrissant de moi, devenant moi, ou plutôt moi devenant lui, et il ne restait plus alors de mon corps qu'un fœtus ratatiné, rapetissé, couché entre les lèvres du fossé, comme si je pouvais m'y fondre, y disparaître, m'y engloutir, accroché comme ces petits singes sous le ventre de leur mère, à son ventre, à ses seins multiples, m'enfouissant dans cette moiteur fauve. Je dis « n'allume pas ». J'attrapais son bras au vol, elle avait un goût de coquillage salé. Je ne voulais connaître, savoir rien d'autre, rien que laper ça et elle. « Mais tu ne m'aimes pas vraiment et moi, oh bon Dieu !» Et elle « pas moi, ce n'est pas moi que tu et moi, oh bon Dieu !» Pendant 5 ans, depuis 5 ans, et elle « mais pas moi, je le sais, pas moi. M'aimes-tu pour ce que je suis? M'aurais-tu aimé sans, je veux dire, si ?» Et moi « oh non, écoute, qu'est-ce que ça peut faire? Laisse-moi te... qu'est-ce que ça peut faire? À quoi ça rime? Laisse-moi, je veux te... » Moule humide, d'où sortait, où j'avais appris à en estamper en pressant l'argile du pouce, les soldats fantassins, cavaliers et cuirassiers, se répandant de la boîte de Pandore, engeance tout armée, bottée et casquée, à travers le monde, l'agent d'armes. Ils avaient une plaque de métal en forme de croissant, suspendue au cou par une chaîne étincelante comme de l'argent, des galons, des torsades d'argent. Ça avait quelque chose de funèbre, de mortel. Je me rappelle ce pré où ils nous avaient mis, ou plutôt parqués, ou plutôt stockés. Nous gisions couchés par rangées successives, les têtes touchant les pieds comme ces soldats de plomb rangés dans un carton. Mais en arrivant, elle était encore vierge, impolluée. Alors je me jetais par terre, mourant de faim, pensant « les chevaux en mangent bien, pourquoi pas moi ?» J'essayais de m'imaginer, me persuader que j'étais un cheval. Je gisais mort au fond du fossé, dévoré par les fourmis, mon corps tout entier se changeant lentement par l'effet d'une myriade de minuscules mutations en une matière insensible, et alors ce serait l'herbe qui se nourrirait de moi, ma chair engraissant la terre, et après tout, il n'y aurait pas grand-chose de changé. Sinon que je serais simplement de l'autre côté de sa surface, comme on passe de l'autre côté d'un miroir ou de cet autre côté. Les choses continuaient peut-être à se dérouler symétriquement, c'est-à-dire que là-haut, elles continueraient à croître. Toujours indifférentes et vertes, comme dit-on, les cheveux continuent à pousser sur les crânes des morts. La seule différence étant que je boufferais les pissenlits par la racine, bouffant là où elles pissent, suant, nos corps emperlés, exhalant cette âcre et forte odeur de racines, de mandragore. J'avais lu que les naufragés, les ermites, se nourrissaient de racines, de glands. Et à un moment, elle le prit d'abord entre ses lèvres, puis tout entier dans sa bouche, comme un enfant goulu. C'était comme si nous nous buvions l'un l'autre, nous désaltérant, nous gorgeant, nous rassasiant, affamés, espérant apaiser, calmer un peu ma faim. J'essayais de la mâcher, pensant c'est pareil à de la salade, le jus vert et âpre, faisant mes dents râpeuses. Un brin effilé me coupa la langue comme un rasoir me brûlant. Par la suite, l'un d'eux m'apprit à reconnaître celle que l'on pouvait manger, par exemple la rhubarbe. Ils avaient aussitôt retrouvé leurs instincts de nomades, de primitifs, s'arrangeant pour faire un feu et y mettre à cuire un chien qu'ils avaient volé. Je me demande à qui. Sans doute à un de ces imbéciles, un de ces officiers ou sous-off, embusqués dans des bureaux ou des états-majors, comme on en voyait parmi nous dans leurs élégants uniformes intacts, se croyant bien à l'abri probablement, et ramassés un beau matin par un type ouvrant la porte d'un coup de pied et les incitant ironiquement du canon de sa mitraillette à s'aligner dans la cour, les bras au-dessus de la tête, stupéfaits et ne comprenant rien à ce qui leur arrivait. On disait qu'ils en avaient pris comme ça des états-majors entiers, pommadés et tirés à 4 épingles. Nous ne nous prévions pas de les engueuler, mais cela avait trouvé plus profitable de rafler leur chien et de le mettre à la casserole, se le partageant entre eux, se tenant, bistres ou olivâtres, énigmatiques, méprisant avec leurs éblouissants dents de loup leurs noms gutturaux et râpeux, Ahmed ben Abdallah ou Bouhabda ou Abderrahman, leur parler brusque, guttural et râpeux, leurs corps lisses et glabres comme ceux des filles. Et il y avait aussi du pissenlit sauvage. Mais ils en amenaient sans cesse d'autres par troupeaux entiers, exténués et débraillés, certains avec des casquettes civiles, leurs capotes déboutonnées, leur battant les mollets, et bientôt le pré tout entier se trouva piétiné et souillé, entièrement recouvert par les rangées de corps étendus, tête contre pied. Et dans les aubes grises, l'herbe aussi était grise, couverte de rosée que je buvais. La buvant par là tout entière, la faisant entrer en moi tout entière, comme ces oranges, où enfant, malgré la défense que l'on m'en faisait, disant que c'était sale, mal élevé, bruyant, j'aimais percer un trou et presser, pressant, buvant son ventre, les boules de ses seins fuyant sous mes doigts, comme de l'eau, une goutte cristalline, rose, tremblant sur un brin incliné sous cette légère et frissonnante brise qui précède le lever du soleil, reflétant, contenant dans sa transparence le ciel teinté par l'aurore. Je me rappelle ces matins inouïs. Pendant toute cette période, jamais le printemps, jamais le ciel n'avait été si pur, lavé, transparent. Les fins de nuit froides, nous serrions l'un contre l'autre dans l'espoir de conserver un peu de chaleur, encastrés l'un dans l'autre en chien de fusil. Je pensais qu'il l'avait tenu comme cela, mes cuisses sous les siennes, cette soyeuse et sauvage broussaille contre mon ventre, enfermant le lait de ses seins dans mes paumes, au centre desquels leur boue rose, thé, mais humide, brillant. Quand j'éloignais ma bouche, il était d'un rose plus prononcé, vif, comme irrité, enflammé, d'une matière grumeleuse, meurtrie, un fil étincelant, l'unissant encore à mes lèvres. Je me rappelle que j'en vis un minuscule sur un brin d'herbe, laissant derrière lui une traînée lumineuse et métallique, comme de l'argent. Si petit qu'il le faisait à peine ployer sous son poids, avec sa minuscule coquille en colimaçon, chaque volute rayée de fines lignes brunes. Son cou, fait aussi d'une texture grumeleuse, en même temps fragile et cartilagineuse, s'étirant, s'érigeant. Ses cornes s'érigeant mais rétractiles quand je les touchais, pouvant s'ériger et se rétracter, elle qui n'avait jamais allaité, désaltérée, était bue par d'autres que des rudes lèvres d'homme. Au centre, il y avait, on pouvait deviner comme une minuscule fente horizontale, au bord collé, d'où pourrait couler, d'où jaillissait invisible le lait de l'oubli. S'érigeant, s'appliquant comme deux taches, comme les têtes des clous enfoncés dans mes paumes, pensant, ils ont compté tous les os, pouvant, semblait-il, entendre mon squelette entier s'entrechoquer, guettant la montée de l'aube froide. Agité d'un tremblement continu, nous attendions le moment où il ferait suffisamment jour pour qu'on ait le droit de se lever. Alors j'enjambais avec précaution les corps emmêlés, on aurait dit des morts, jusqu'à l'allée centrale, où allaient et venaient les sentinelles, aux colliers de métal comme des chiens. Debout alors, j'en avais encore pour un moment à trembler, grelottant, cherchant à me rappeler quelle est cette cérémonie où ils sont tous étendus par terre, rang après rang, les têtes touchant les pieds sur les dalles froides de la cathédrale, l'ordination, je crois, ou la prise de voile pour les jeunes filles, les vierges étendues de tout leur long, de part et d'autre de la travée centrale, où passe dans les nuages d'encens le vieil évêque, semblable à une momie desséchée et couverte d'or, de dentelle, agitant faiblement sa main gantée d'amarante et baguée, chantant d'une voix exténuée, à peine audible, les mots latins, disant qu'ils sont morts pour ce monde, et il paraît qu'on étend alors un voile sur eux. L'aube, uniformément grisâtre, s'étendant sur la prairie, et dans le bas, un peu de brume stagnait au-dessus du ruisseau, mais il ne nous permettait pas de nous lever, il ne nous permettait de nous lever que lorsque le jour était franchement là. Et en attendant, nous restions à grelotter, tremblant de tous nos membres, étroitement encastrés et enlacés. Je roulais sur elle, l'écrasant de mon poids, mais je tremblais, trop fébrile, tâtonnant à la recherche de sa chair, de l'entrée, de l'ouverture de sa chair. Parmi l'emmêlement, cette moiteur légère, touffue, mon doigt maladroit, essayant de les diviser, aveugle, mais trop pressé, trop tremblant. Alors elle le mit elle-même, une de ses mains se glissant entre nos deux ventres, écartant les lèvres du majeur et de l'annulaire en V, tandis que, quittant mon cou, son autre bras semblait ramper le long d'elle-même, comme un animal, comme un col de cygne invertébré, se faufilant le long de la hanche de Léda, ou quel autre oiseau symbolique de l'impudique, de l'orgueilleuse, oui, le paon, sur le rideau de filet retombé, sa queue chamarrée d'yeux, se balançant, oscillant, mystérieux. Et à la fin, contournant, passant sous sa fesse repliée, m'atteignant le poignet, retourné, posant sa paume, renversée à plat sur moi, comme pour me repousser, mais à peine contenant mon impatience, puis le prenant, l'introduisant, l'enfouissant, l'engloutissant, respirant très fort. Elle ramena ses deux bras, le droit entourant mon cou, le gauche pressant mes reins, où se nouaient ses pieds, respirant de plus en plus vite, maintenant le souffle coupé. Chaque fois que je retombais, la heurtait, l'écrasait sous mon poids, m'éloignant et la heurtant. Elle rebondissait vers moi, et à un moment il sortit, mais elle le remit très vite, cette fois d'une seule main, sans lâcher mon cou. Maintenant elle haletait, gémissait, pas très fort, mais d'une façon continue, sa voix changée, tout autre, que je ne connaissais pas, c'est-à-dire comme si c'était une autre, une inconnue, enfantine, désarmée, gémissant, se faisant entendre à travers elle, quelque chose d'un peu effrayé, plaintif, égaré. Je dis « Est-ce que je t'aime ?» Je la heurtais, le cri heurtant sa gorge, étranglée. Elle parvint pourtant à dire « Non ». Je dis de nouveau « Tu ne crois pas que je t'aime ?» La heurtant de nouveau mes reins, mon ventre, la heurtant, la frappant de nouveau, tout au fond d'elle, sa gorge s'étranglant. Un moment, elle fut incapable de parler, mais à la fin, elle réussit à dire une seconde fois « Non ». Et moi « Tu ne crois pas que je t'aime ? Vraiment, tu ne crois pas que je t'aime ? Alors, est-ce que je t'aime maintenant ? Est-ce que je t'aime ?» dit la heurtant, chaque fois plus fort, ne lui laissant pas le temps, la force de répondre, sa gorge, son cou, ne laissant plus passer qu'un son inarticulé, mais sa tête roulant furieusement, à droite et à gauche, sur l'oreiller, parmi la tache sombre de ses cheveux, faisant non, 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 non. Qu'avais-je cherché en elle, espéré, poursuivi jusque sur son corps, dans son corps, des mots, des sons aussi fous que lui, avec ses illusoires feuilles de papier noircies de pattes de mouche, des paroles que prononçaient nos lèvres pour nous abuser nous-mêmes, vivre une vie de sons sans plus de réalité, sans plus de consistance que ce rideau sur lequel nous croyons voir le pan brodé, remuer, palpiter, respirer, imaginant, rêvant à ce qu'il y avait derrière, n'ayant même pas vu sans doute le visage coupé en deux, la main qu'il avait laissé retomber, épiant passionnément le faible mouvement d'un courant d'air, elle dit « À quoi penses-tu ? » Je dis « À toi ». Elle dit de nouveau « Non ». « Dis-moi à quoi tu penses ?» Je dis « À toi, tu le sais bien ». Je posai la main sur elle, juste au milieu, c'était comme du duvet, de des légères plumes d'oiseau, un oiseau dans la main, mais aussi un buisson. Proverbe anglais, elle dit « Pourquoi fermes-tu les yeux ?» Je les ouvris. La lumière était toujours allumée, elle était couchée sur le dos, une jambe légèrement ouverte, l'autre repliée, haute comme une montagne au-dessus de moi, le pied à plat sur le drap froissé, et en arrière, un peu plus bas que la cheville, la peau plus épaisse à cet endroit, faisait trois plis horizontaux, au-dessus du talon légèrement teinté d'oranger. Ma joue sur la face interne de l'autre cuisse, qui, dans cette position, devenait la face supérieure, je pouvais voir, à l'endroit où elle s'attachait au corps sous les poils légers qui commençaient là, le renflement formé par le tendon qui traverse l'aine en diagonale, la peau très blanche en haut de la cuisse teintant d'un bistre clair à partir de l'aine, les lèvres de la fente d'un bistre plus prononcé avant l'endroit où commence la muqueuse, comme s'il restait, persistait là, mal effacé, quelque chose de nos ancêtres sauvages, primitifs, sombres, s'étreignant, s'accouplant, roulant nus, violents et brefs, dans la poussière, les fourrés. Dans cette posture, elle était à peine ouverte. On voyait un peu de mauve pâle comme un ourlet, une doublure dépassant légèrement, la couleur bistre allant encore s'accentuant, plus prononcée, fauve à mesure que le regard descendait vers les replis, on aurait dit une étoffe, une soie légèrement teintée, pincée du dedans par deux doigts, le haut dessinant comme une boucle, ou plutôt une fronce, une boutonnière de chair. Elle dit « À quoi penses-tu ? Réponds-moi. Où es-tu ? » De nouveau, je posais ma main dessus, ici, et elle « Non. » Et moi « Tu trouves que je ne suis pas là ?» J'essayais de rire, elle dit « Non, pas avec moi. » Tout ce que je suis pour toi, c'est une fille à soldat. Quelque chose comme ce qu'on voit dessiné à la craie ou avec un clou sur les murs des casernes, dans le plâtre effrité. un ovale partagé en deux et des rayons tout autour comme un soleil, ou un œil vertical fermé entouré de cils et même pas de figure. Je dis « Oh, arrête !» Veux-tu, est-ce que tu peux comprendre, est-ce que tu peux imaginer que pendant 5 ans je n'ai rêvé que de toi, et elle justement, et moi justement ? Et elle, oui, laisse-moi. Elle essaya de se dégager, je dis « Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui te prend ?» Elle essayait toujours de se dégager, de se lever, elle pleurait. Elle dit encore une fois des dessins comme en font les soldats, des propos de soldats. Je les écoutais continuer à se disputer dans le soir. Regardant tomber le jour, la pluie, Blum dit qu'il boirait bien quelque chose de chaud et Vac lui dit que, puisqu'il était si malin, pourquoi n'allait-il pas frapper à la maison et demander qu'elle lui fasse un peu de café ? Et Blum dit qu'il n'aimait pas les fusils, qu'il en portait un sur le dos, mais qu'il n'avait jamais eu des goûts de chasseur, encore moins de gibier, et que ce boiteux avait l'air d'avoir une telle envie de se servir du sien, disant « Après tout, il a bien le droit de tirer son coup, lui aussi, quand tout le monde, tout partout, brandit sa petite pétoire. Après tout, c'est la guerre !» Mais à présent, je n'entendais plus que sa voix. Il faisait noir de nouveau et on ne voyait plus rien, et toute la connaissance du monde que nous pouvions avoir, c'était ce froid, cette eau qui maintenant nous pénétrait de toutes parts, ce même ruissellement obstiné, multiple, omniprésent, qui se mélangeait, semblait ne faire qu'un, avec l'apocalyptique, le multiple piétinement des sabots sur la route, et cahoté sur nos montures invisibles. Nous aurions pu croire que tout cela, le village, la grange, la laiteuse apparition, les cris, le boiteux, l'adjoint, la vieille folle, tout cet obscur et aveugle et tragique et banal imbroglio de personnages déclamant, s'injuriant, se menaçant, se maudissant, trébuchant dans les ténèbres, tâtonnant, jusqu'à ce qu'ils finissent par se cogner contre un obstacle, une machine cachée là dans l'obscurité, et même pas pour eux, même pas spécialement à leur intention, qui leur exploserait en pleine figure, en leur laissant juste le temps d'entrevoir pour la dernière fois, et probablement la première, quelque chose qui ressemble à de la lumière, que tout cela n'avait existé que dans notre esprit. Un rêve, une illusion. Alors qu'en réalité, nous n'avions peut-être jamais arrêté de chevaucher, chevauchant toujours dans cette nuit ruisselante et sans fin, continuant à nous répondre sans nous voir. Alors peut-être avait-elle raison. Après tout, peut-être disait-elle vrai. Peut-être étais-je toujours en train de lui parler, d'échanger avec un petit juif maintenant mort depuis des années, des vantardises, des blagues, des obscénités, des mots, des sons, rien que pour ne pas nous endormir, nous donner le change, nous encourager l'un l'autre. Blum disant maintenant, mais peut-être ce fusil n'était-il pas chargé, peut-être ne savait-il même pas comment on s'en sert. Les gens aiment tellement faire de la tragédie, du drame, du roman. Et moi, mais peut-être était-il chargé, quelquefois ça arrive, on en voit tous les matins dans les journaux. Alors il faudra acheter le journal demain, il y aura au moins quelque chose d'intéressant à lire. Je croyais que cette guerre t'intéressait. Je me figurais même que tu y étais directement intéressé. Pas à 4 heures du matin, à cheval, sur une carne et sous la pluie. Tu crois qu'il est 4 heures du matin ? Tu crois qu'il finira tout de même par faire jour ? Est-ce que ce n'est pas le jour qui se lève ? Qu'est-ce qu'on voit d'un peu moins noir là-bas, à droite ? Où ? Où vois-tu quelque chose dans cette espèce de chaudron ? De temps en temps, on voit une plaque claire. C'est peut-être de l'eau, peut-être que c'est la Meuse, ou le Rhin, ou l'Elbe. Non, pas l'Elbe, on l'aurait su. Bon, alors quoi ? Une rivière, qu'est-ce que ça peut faire ? Quelle heure crois-tu qu'il peut être ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Il doit bien y avoir 3 jours qu'on est dans ce wagon. Alors mettons que ce soit l'Elbe. Les deux voix sans visage, alternant, se répondant dans le noir, sans plus de réalité que leur propre son, disant des choses sans plus de réalité qu'une suite de sons, continuant pourtant à dialoguer, au commencement seulement 2 morts en puissance, puis quelque chose comme 2 morts vivants, puis l'un d'eux véritablement mort et l'autre toujours vivant. À ce qu'il paraissait, pensa Georges, et à ce qu'il paraissait aussi, cela ne valait guère mieux. Et tous deux, celui qui était mort et celui qui se demandait s'il ne valait pas mieux être mort pour de bon, puisqu'au moins on ne le savait pas, pris, enserré par cette chose à la fois immobile et mouvante, qui rabotait lentement sous son poids la surface de la terre. Et peut-être était-ce cela que Georges continuait toujours à percevoir comme un glissement, un raclement imperceptible, monstrueux et continu derrière le menu et patient piétinement des sabots, cette olympienne et froide progression, ce lent glacier en marche depuis le commencement des temps, broyant, écrasant tout, et dans lequel il lui semblait les voir, lui et Blum, raides et glacés, juchés avec leurs bottes, leurs éperons, sur leurs carnes exténuées, intacts et morts parmi la foule des fantômes, debout eux aussi, dans leurs costumes aux couleurs suaves et fanées, s'avançant tous à la même imperceptible vitesse, comme un cortège figé de mannequins oscillant par saccades sur leur socle, uniformément englobés dans cette épaisseur glauque à travers laquelle il essayait de les deviner, de les préciser, se répétant à l'infini dans les vertes profondeurs des miroirs, la voix pathétique et bouffonnante de Blum disant « Mais qu'en sais-tu ? Tu ne sais rien. » Et je lis deux passages courts pour finir. « Mais comment appeler cela ? Non pas la guerre, mais non pas la classique destruction ou extermination d'une des deux armées, mais plutôt la disparition, l'absorption par le néant ou le tout originel de ce qui, une semaine auparavant, était encore des régiments, des batteries, des escadrons, des escouades, des hommes. Ou plus encore, la disparition de l'idée, de la notion même de régiment, de batterie, d'escadron, d'escouade, d'hommes. Ou plus encore, la disparition de toute idée, de tout concept, si bien que pour finir, le général ne trouva plus aucune raison qui lui permît de continuer à vivre, non seulement en tant que général, c'est-à-dire en tant que soldat, mais encore simplement en tant que créature pensante, et alors il se fit sauter la cervelle. Luttant pour ne pas céder au sommeil, les quatre cavaliers avançant toujours parmi les pâturages cloisonnés de haies, les vergers, et les archipels de maisons rouges, tantôt isolés, tantôt se rapprochant, s'agglutinant au bord de la route jusqu'à former une rue, puis s'espaçant de nouveau, les bois épars sur la campagne, taches semblables à des nuages verts déchiquetés, hérissés de sombres cornes triangulaires. Et encore des soldats du fait qu'ils étaient revêtus d'un uniforme et armés, c'est-à-dire tous les quatre également munis d'un sabre dit bancal d'environ un mètre de long, d'un poids de 2 kilos, à la lame légèrement courbe, soigneusement affûté dans un fourreau de métal, lui-même à l'abri d'un fourreau de tissu marron. Sabre et fourreau maintenus par 2 courroies, dites courroies de pommeau et courroies de sabre sur le côté gauche de la selle, entre le quartier et le faux quartier, de sorte que le fourreau dessinait un léger renflement sous la cuisse gauche du cavalier, la poignée de cuivre du sabre venant se placer à gauche du pommeau et pouvant être facilement saisie en cas de besoin par la main droite du cavalier, les deux officiers étant en outre pourvus chacun d'un revolver d'ordonnance et les deux simples cavaliers d'un mousqueton à canon court porté en bandoulière. Et plus tout à fait des soldats. Du fait qu'ils se trouvaient coupés de toute formation régulière et dans l'ignorance de ce qu'ils devaient faire, non seulement parce que le plus élevé en grade des quatre, le capitaine, n'avait reçu aucune directive, sauf peut-être celle de gagner un certain point de repli, ordre datant vraisemblablement de la veille ou de l'avant-veille, si bien qu'il était impossible de savoir si ce point de repli n'était pas déjà occupé par l'ennemi, ce que prétendaient les blessés ou les gens rencontrés sur la route, et si par conséquent cet ordre pouvait encore être considéré comme valable et devant être exécuté. Mais encore parce qu'il apparaissait que lui, le capitaine, n'était même plus disposé à en donner des ordres, ni animé du désir de se faire obéir, comme il était apparu un peu plus tôt, lorsque 2 estafettes cyclistes qui suivaient encore avaient déclaré qu'elle se refusait à continuer plus longtemps et qu'il n'avait même pas détourné la tête pour les écouter, ni ouvert la bouche pour leur interdire de déserter, ni fait mine de tirer son revolver pour les en menacer. Mais comment savoir ? Les 5 chevaux, avançant d'un pas pour ainsi dire somnambulique, 4 demi-centarbais produits de croisements connus sous l'appellation d'anglo-arabe, 2 d'entre eux entiers, celui du capitaine Hongre, le 4e, monté par le simple cavalier, étant en fait une jument, Ah, je sèche le nantre 6 et 11 ans. Robe, celui du capitaine Bébrun, c'est-à-dire presque noir, avec une pelote en tête. Celui du sous-lieutenant Alzan Doré, la jument montée par le simple cavalier, Bay, avec liste en tête et deux balzanes, antérieure et postérieure droit. Celui de l'ordonnance Becler, Acajou, une balzane à l'antérieure gauche, et le cheval de main, un sous-verge d'un attelage de mitrailleuse, les bricoles coupées à coups de sabre, traînant par terre. Percheron de réquisition. Alzan, ou plutôt rouquin, ou plutôt rose de lit de vin, moucheté de gris, la queue d'un gris jaunâtre légèrement ondulé, liste en tête, descendant jusqu'au naseau et la lèvre supérieure d'un blanc rosé, le cheval étant alors dit buvant dans son blanc, les crinières des cinq chevaux réglementairement tondues présentant, sauf celle des Alzan, l'aspect de chenille noire, velue et annelée lorsque le cheval porte la tête haute, de sorte que la peau sur l'arête supérieure de l'encolure se gonfle en replis superposés, les queues longues jusqu'au jarret, l'une des cinq bêtes, celle du sous-lieutenant Ferrand, c'est-à-dire entrechoquant la pince de son postérieur gauche contre le talon de son antérieur droit à l'allure du trot. Mais comment savoir ? Comment savoir ? Les quatre cavaliers, les cinq chevaux somnambuliques, et non pas avançant, mais levant et reposant les pieds sur place, pratiquement immobiles sur la route, la carte, la vaste surface de la terre, les prés, les bois se déplaçant lentement sous et autour d'eux, les positions respectives des haies, des bouquets d'arbres, des maisons se modifiant insensiblement. Les quatre hommes reliés entre eux par un invisible et complexe réseau de forces, d'impulsions, d'attractions ou de répulsions s'entrecroisant et se combinant pour former, pour ainsi dire, par leur résultante, le polygone de sustentation du groupe, se déformant lui-même sans cesse du fait des incessantes modifications provoqués par des accidents internes ou externes. Et je lis juste la toute dernière page. Tandis qu'il s'avançait à la rencontre de sa mort, dont le doigt était déjà posé, dirigé sur lui sans doute, tandis que je suivais son buste osseux et raide, cambré sur sa selle, tache d'abord pas plus grosse qu'une mouche pour le tireur à l'affût, mince silhouette verticale au-dessus du guidon de l'arme pointée, grandissante au fur et à mesure qu'il se rapprochait, l'œil immobile et attentif de son assassin patient, l'index sur la détente, voyant pour ainsi dire l'envers de ce que je pouvais voir, ou moi l'envers et lui l'endroit, c'est-à-dire qu'à nous deux, moi le suivant et l'autre le regardant s'avancer, nous possédions la totalité de l'énigme. L'assassin sachant ce qui allait lui arriver et moi sachant ce qui lui était arrivé, c'est-à-dire après et avant, c'est-à-dire comme les deux moitiés d'une orange partagée et qui se raccordent parfaitement. Au centre de laquelle il se tenait ignorant, ou voulant ignorer ce qui s'était passé comme ce qui allait se passer dans cette espèce de néant. Comme on dit qu'au centre d'un typhon, il existe une zone parfaitement calme, de la connaissance, de point zéro. Il lui aurait fallu une glace à plusieurs faces. Alors il aurait pu se voir lui-même, sa silhouette grandissant jusqu'à ce que le tireur distingue peu à peu les galons, les boutons de sa tunique, les traits même de son visage. Le guidon choisissant maintenant l'endroit le plus favorable sur sa poitrine, le canon se déplaçant insensiblement, le suivant, l'éclat du soleil sur l'acier noir à travers l'odorante et printanière aide d'aubépine. Mais l'ai-je vraiment vu, ou cru le voir, ou tout simplement imaginé après coup, ou encore rêvé? Peut-être dormais-je? N'avais-je jamais cessé de dormir, les yeux grands ouverts en plein jour, bercé par le martèlement monotone des sabots des cinq chevaux, piétinant leurs ombres, ne marchant pas exactement à la même cadence, de sorte que c'était comme un crépitement alternant, se rattrapant, se superposant, se confondant par moments, comme s'il n'y avait plus qu'un seul cheval, puis se dissociant de nouveau, se désagrégeant, recommençant, semblait-il, à se courir après, et cela ainsi de suite. La guerre, pour ainsi dire, étale, pour ainsi dire, paisible autour de nous. Le canon sporadique, frappant dans les vergers déserts, avec un bruit sourd, monumental et creux, comme une porte en train de battre, agitée par le vent dans une maison vide. Le paysage tout entier inhabité, vide, sous le ciel immobile, le monde arrêté, figé, s'effritant, se dépiautant, s'écroulant peu à peu par morceaux comme une bâtisse abandonnée, inutilisable, livrée à l'incohérent, nonchalant, impersonnel et destructeur travail du temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à Dominique. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.